Chapitre 19. Ruth et sa famille étaient rentrées. Martin, de retour à Auckland, la vit beaucoup. Depuis qu'elle avait décroché son diplôme, elle n'étudiait plus, et Martin, l'esprit et le corps vidés de toute énergie, n'écrivait plus. Cela leur donnait beaucoup plus de temps pour être ensemble, et leur intimité mûrit vite. Au début, Martin ne fit que se reposer. Il dormit énormément et passa de longues journées à musarder, à méditer, à ne rien faire. Il était comme un convalescent relevant d'un terrible mal. Le premier signe de sa renaissance apparut sous la forme d'un regain d'intérêt pour le journal du matin. Bientôt, il se remit à lire, de petits romans et de la poésie. Puis, au bout de quelques jours, il reprit avec passion sa lecture de Fiske, si longtemps interrompue. Il ne tarda pas à retrouver ses forces, le ressort et la belle vitalité de la jeunesse. Ruth ne cacha pas sa déception lorsqu'il lui annonça son intention de reprendre la mer pour une nouvelle traversée dès qu'il serait suffisamment reposé. « Pourquoi ? » demanda-t-elle. « Pour l'argent. Il faut que je me constitue des réserves pour mes prochaines tentatives littéraires. L'argent est le nerf de la guerre. L'argent est la patience, en ce qui me concerne. Mais si c'est de l'argent que vous voulez, pourquoi ne pas être resté à la blanchisserie ? Parce que la blanchisserie faisait de moi une bête. À la longue, ce genre de travail conduit à la beuverie. » Elle le toisa avec horreur. « Vous voulez dire que ?» balbutia-t-elle. Il lui eût été facile d'éluder la question, mais il aimait la franchise et avait résolu d'être sincère en toute occasion. « Oui, répondit-il, c'est bien ce que je veux dire, plusieurs fois. » Elle frémit et s'écarta de lui. « Jamais aucun homme de mon entourage n'a fait ça. Jamais. C'est parce qu'ils n'ont jamais travaillé à la blanchisserie de Shelley Hot Springs, » fit-il avec un rire amer. « Le travail est un bienfait, c'est bon pour la santé, disent les prédicateurs. Et Dieu sait que ça ne m'a jamais fait peur, mais trop c'est trop. Il faut de la mesure en toutes choses, et cette blanchisserie là-haut n'en avait pas. C'est pourquoi je vais refaire une traversée. Ce sera ma dernière, je pense, car à mon retour, je serai publié dans les revues, j'en ai la certitude. » Elle garda le silence, hostile, et il l'observa avec tristesse, se rendant compte qu'elle ne pourrait jamais comprendre ce qu'il avait enduré. « Un jour, j'écrirai quelque chose là-dessus. La dégradation par le travail, ou « Psychologie de l'alcoolisme dans la classe ouvrière », un titre de ce genre-là. » Jamais, depuis leur première rencontre, ils n'avaient semblé aussi opposés l'un à l'autre. Cet aveu sans détour, avec toute la révolte qu'il contenait, l'avait rebuté. Mais c'était moins la teneur de son propos que le fait même de se sentir rebuté qui la contrariait. Cela lui prouvait l'importance qu'il avait prise à ses yeux et le degré d'intimité auquel ils étaient arrivés. Des idées naïves, angéliques, se formèrent dans son esprit. Elle était décidée à sauver de la déchéance ce jeune homme rude qui avait déjà fait tant de chemin. Elle le sauverait de la malédiction de ses origines, le sauverait de lui-même et en dépit de lui-même. Elle croyait en cela obéir à une noble injonction de sa conscience, sans se douter que c'était en réalité la jalousie et le désir amoureux qui la guidait. Ils firent de nombreuses promenades à bicyclette dans la douceur de l'arrière-saison. Ils lisaient des poèmes à haute voix dans les collines, tour à tour, de beaux vers inspirés et propres à élever l'âme. Elle en profitait pour lui prêcher indirectement le renoncement, le sacrifice, la patience, l'esprit industrieux et l'effort, autant de principes abstraits incarnés dans son esprit par son père, M. Butler, ou Andrew Carnegie, le pauvre gosse immigré devenu le libraire du monde. Tout cela était fort apprécié par Martin, qui commençait à mieux saisir son processus mental et pour qui l'âme de Ruth n'était plus le mystère impénétrable d'autrefois. Intellectuellement, il était son égal, et leur point de désaccord n'affectait pas son amour, plus ardent que jamais, au contraire, car désormais, il l'aimait pour ce qu'elle était. Même sa constitution fragile était un charme supplémentaire à ses yeux. Il avait lu l'histoire de la maladie d'Elizabeth Barrett, qui était restée alitée jusqu'à ce jour enflammé où, enlevée par Browning, elle s'était tenue debout, les deux pieds sur la terre ferme, sous l'immensité du ciel. Et ce que Browning avait fait pour elle, il pouvait le faire pour Ruth. Mais, d'abord, il fallait qu'elle l'aimât. Le reste serait facile. Il lui donnerait de la force et de la santé. Il imaginait déjà leur vie, dans les années à venir. Dans une atmosphère de travail, de confort et de bien-être, il se voyait avec Ruth assise par terre parmi une profusion de coussins, lisant et discutant de poésie. Oui, c'était ainsi qu'il imaginait leur vie. C'était toujours la même image qui lui venait. Parfois, c'était lui qui était assis et déclamait des vers, tandis qu'elle l'écoutait, la tête posée sur son épaule. Parfois, ils parcouraient ensemble les pages imprimées de merveilles. De temps à autre, pourtant, ils changeaient le décor, et puisqu'elle aimait la nature, ils l'installaient dans quelque vallée escarpée, ou dans une prairie de haute montagne, ou encore au pied d'une dune grise caressée par des vagues mourantes, ou bien alors sur une île volcanique, entourée de cascades écumantes qui se fracassaient dans la mer, en gerbes vaporeuses balayées par les vents. Mais toujours au premier plan, il y avait Ruth et Martin, esthètes accomplis, grands lecteurs devant l'Éternel, et à l'arrière-plan, derrière le décor naturel, un autre décor plus flou et plus abstrait, le travail, la gloire et l'argent qui leur avaient ouvert les portes de tous les trésors du monde. Un jour, la mère de Ruth la mit en garde. « Je ne saurais trop recommander la prudence à ma petite fille, » lui dit-elle. « Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est impossible. Il n'est pas... » Ruth rougissait, mais c'était la rougeur de la Vierge qui, pour la première fois, abordait le sujet sacré de la vie avec une mère qu'elle considérait comme pareillement sacrée. Madame Morse acheva sa phrase pour elle. « Ton genre !» Ruth acquiesça. « Je ne voulais pas le dire, mais c'est la vérité. Il est rude, brutal, fort, trop fort. Il n'a pas... » Elle hésita. C'était une expérience nouvelle pour elle que de discuter de ces choses. De nouveau, sa mère compléta sa pensée pour elle. « Il n'a pas mené une existence décente, c'est cela ?» Et de nouveau, Ruth acquiesça, en rougissant toujours. « C'est exactement cela. Ce n'est pas sa faute. Mais il a beaucoup joué avec le feu. Oui, avec le feu. Et il m'effraie. Il me terrifie même parfois quand il parle avec insouciance des choses qu'il a faites, comme si tout cela ne comptait pas. Mais ça compte, n'est-ce pas ?» Elles étaient assises côte à côte, se tenant par le bras, et la mère tapotait la main de sa fille en attendant qu'elle poursuivît. « Mais il m'intéresse terriblement, » continua Ruth. « En un sens, il est un peu mon protégé, et puis, c'est mon premier ami, enfin, pas exactement mon ami, disons, un mélange d'amis et de protégés. Parfois, quand il me fait peur, j'ai l'impression que c'est un bulldog que j'ai adopté pour jouer et qui tire sur sa laisse, montre les dents et menace de s'échapper. » Sa mère écoutait sans rien dire. « Oui, voilà, au fond, il m'intéresse à la manière d'un bulldog. Il a énormément de qualités, mais d'un autre côté, il a aussi certains défauts qui me gênent quand j'y pense. Il jure, il fume, il boit, il s'est battu avec ses poings, il me l'a dit et m'a avoué qu'il aimait ça. Il est tout ce qu'un homme ne devrait pas être, pas du tout le genre d'homme dont je voudrais pour... » Elle baissa la voix. « Pour Marie. Et puis, il est trop costaud. Mon prince charmant devra être svelte, élancé, brun et gracieux et envoûtant. Non, il n'y a pas de danger que je tombe amoureuse de Martin Eden. Ce serait la pire chose qui puisse m'arriver. » « Mais ce n'est pas à cela que je faisais allusion, » précisa sa mère. « As-tu pensé à lui ? Ce n'est pas un parti pour toi, en aucune façon, et tu le sais. Mais imagine qu'il vienne à t'aimer. » « Mais il m'aime, déjà. » « Il fallait s'y attendre, » dit Madame Morse avec tendresse. « Comment pourrait-il en être autrement avec une fille comme toi ?»« Olney me déteste, » protesta Ruth. « Et je déteste Olney. Quand il est dans les parages, j'ai envie de sortir mes griffes. Et si je fais patte de velours, c'est lui qui sort ses griffes. Avec Martin Eden, je me sens bien. Personne ne m'a jamais aimé avant lui. Aucun homme, je veux dire, de ce genre d'amour. Et c'est si doux d'être aimé, de ce genre d'amour. Vous comprenez cela, n'est-ce pas, mère chérie? Vous êtes femme, vous aussi, tellement femme. » Elle blottit sa tête dans le giron de sa mère. « Vous pensez que je suis folle, je sais, mais je suis sincère et je vous dis ce que je ressens. » Madame Morse était étrangement triste et heureuse. Sa petite fille, licenciée S-lettres, n'était plus. Elle était devenue une petite femme. L'expérience avait réussi. Un grand vide avait été comblé dans la nature de Ruth, et comblé sans danger ni pénitence. Ce rude marin avait été l'instrument de la révélation. Même sans l'aimer, Ruth avait désormais pleinement conscience de sa féminité. « Sa main tremble, » confia-t-elle, le visage toujours blotti contre sa mère pour cacher sa rougeur. « C'est drôle et ridicule à la fois, mais il me fait presque pitié. Quand ses mains tremblent comme ça et que je vois ses yeux briller, je le sermonne gentiment sur ses erreurs, ses projets illusoires, ses mauvais choix pour l'avenir. Mais il me vénère, je le sais. Ses yeux et ses mains ne mentent pas, et rien que d'y penser, je me sens adulte. J'ai l'impression de posséder quelque chose qui m'appartient de plein droit, qui me rend semblable aux autres filles, aux autres femmes. Voyez-vous, je sais fort bien que je n'étais pas comme elle auparavant, et je sais que cela vous causait du souci. Vous pensiez que je ne m'en rendais pas compte, mais je le voyais bien, et je voulais être à la hauteur, comme dit Martin Eden. Heure bénie pour une mère et une fille, conversation feutrée dans la pénombre, les yeux humides, l'une toute innocence et franchise, l'autre toute bienveillance et attendrissement, guide calme et serein. « Il a 4 ans de moins que toi, » dit la mère. « Il n'a aucune place dans la société, il n'a ni situation ni revenu, il n'a pas l'esprit pratique. S'il t'aime, le bon sens devrait l'inciter à faire quelque chose pour gagner le droit de t'épouser au lieu de caresser ses rêves puérils de gloire littéraire. » Martin Eden ne grandira jamais, j'en ai peur. C'est un irresponsable, incapable d'entreprendre une carrière sérieuse comme l'ont fait ton père et tous nos amis, Monsieur Butler par exemple. Martin Eden ne saura jamais gagner de l'argent. Et le monde est ainsi fait que l'argent est nécessaire au bonheur. Oh, pas forcément une fortune mirobolante, mais au moins de quoi assurer un confort décent à sa femme. Il n'en a jamais parlé ? Pas un mot. Pas la moindre allusion. Et s'il s'en avisait, je ne le laisserais pas faire parce que, voyez-vous, je ne l'aime pas. Tant mieux. Je serais désolé de voir ma fille unique, si propre et si pure, aimer un homme comme lui. Il y a d'autres hommes dans le monde, de vrais hommes, propres et dignes. Attends-les. Un jour, tu en rencontreras un, tu l'aimeras, et il t'aimera, et vous serez aussi heureux que ton père et moi l'avons été ensemble. Et il y a une chose que tu dois toujours garder présente à l'esprit. Oui, mère. Les enfants, dit Madame Morse, d'une voix tendre et douce. J'y ai pensé, à voix haute. Au souvenir des pensées licencieuses qui l'avaient tourmentée quelquefois, elle rougit avec une pudeur virginale. C'est à cause de ça, à cause des enfants, que M. Eden n'est pas un parti possible, reprit Madame Morse avec fermeté. Leur hérédité doit être irréprochable, et je crains fort qu'il ne soit pas irréprochable de ce côté. Ton père m'a parlé de la vie de marin et... Bref, tu me comprends. Ruth prit la main de sa mère pour montrer qu'elle comprenait, et elle croyait réellement comprendre, bien qu'elle n'eût de ces choses qu'une notion vague, lointaine et terrifiante qui dépassait son imagination. « Vous savez que je ne ferai rien sans vous le dire, » commença-t-elle, « mais il vaut mieux que ce soit vous qui abordiez la question comme aujourd'hui. Je voulais déjà vous en parler, mais je ne savais pas comment. C'est de la fausse pudeur sans doute, mais ça me simplifiera les choses. J'aime mieux que ce soit vous qui me posez des questions, ça m'aide, car enfin, mère, « vous êtes femme aussi !» s'écria-t-elle, en exultant au point de sauter sur ses pieds. Sa mère se leva en lui tendant les bras et elles restèrent debout, face à face dans la pénombre, unies dans une étrange et douce communion d'âme. « Je ne vous avais jamais considéré ainsi avant cette conversation. Il m'a fallu comprendre que j'étais moi-même femme pour comprendre que vous l'étiez aussi. « Nous sommes femmes ensemble. » répondit sa mère, en l'attirant contre elle pour l'embrasser. « Femmes ensemble !» répéta-t-elle comme elle sortait de la pièce, en se tenant par la taille, le cœur gros d'un sentiment nouveau de complicité. « Notre petite fille est devenue une femme !» annonça fièrement Madame Morse à son mari, 1 heure plus tard. « Dois-je comprendre, » dit-il après un long regard sur son épouse, « dois-je comprendre qu'elle est amoureuse ?»« Non ?» « Mais elle est aimée, » répondit-elle en souriant. « L'expérience a réussi. Elle s'est enfin réveillée. »« Alors, il faudra nous débarrasser de lui, » trancha M. Morse, sans la moindre émotion, d'un ton très professionnel. Mais sa femme hocha la tête. « Ce ne sera pas nécessaire. Ruth dit qu'il reprend la mer dans quelques jours. Quand il reviendra, elle ne sera plus là. Nous l'enverrons chez Tante Clara, un an dans l'Est, un changement de climat, de fréquentation, d'idées et d'habitudes, c'est exactement ce qu'il lui faut.